Vous écoutez le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 2 juillet 2023 de 18h à 21h, réalisé par Aline. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour 3 heures d'émission en direct. Je rappelle que Marie-Hélène est au standard et qu'elle sera heureuse de prendre vos messages et vos questions que nous proposerons à nos invités ce soir. En première partie, nous allons parler de Blaise Pascal. C'est quasiment jour pour jour qu'il y a 400 ans, le 19 juin 1623, que naissait Blaise Pascal. Et nous sommes heureux, particulièrement heureux, de recevoir Jean-Baptiste Weffre pour évoquer ce génie de notre littérature. Nous ferons 2 émissions. Une première émission aujourd'hui, plus consacrée à sa vie. Bien sûr, nous aborderons un certain nombre d'œuvres. Et à la rentrée, le 3 septembre, le dimanche 3 septembre, eh bien, nous ferons une 2e émission, plus centrée sur ses œuvres, les provinciales et ses pensées particulièrement. En 2e partie d'émission, à 19h30, nous aurons 3 invités, Franck Favier, Florence de Baudus et Sébastien Bertrand, qui sont historiens tous les 3. Et nous les recevons à l'occasion de la publication de ce livre, de leur livre. C'est un livre collectif sous la direction de Franck Favier, aux éditions Passé Composé. Le livre est intitulé « Traître, une nouvelle histoire de l'infamie ». Et cette émission sera consacrée tout simplement à la trahison dans l'histoire. Et les exemples en matière de traître abondent. Nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission. Le 8 juillet 2017, dans un entretien au quotidien italien La Repubblica, le pape François annonce que Blaise Pascal mériterait la béatification et qu'il envisage de lancer la procédure officielle. Et pourtant, les jésuites... François est un jésuite. Les jésuites n'eurent pas adversaire plus brillant et plus féroce que Blaise Pascal. Ce qui nous a valu d'ailleurs la seule œuvre théologique publiée de son vivant, les fameuses Provinciales, un recueil de lettres qu'il a rédigé à la demande de ses amis jansénistes pour défendre Port-Royal. Pascal, comme je le disais, est né il y a 400 ans, presque jour pour jour donc. Et nous sommes heureux et honorés ce soir d'évoquer la mémoire donc de ce génie, mais un génie finalement qui est assez méconnu. Lorsqu'on évoque Pascal, on pense bien sûr à ses pensées, et pourtant cette œuvre ne fut publiée que très tardivement. Et ont d'ailleurs, nous verrons pourquoi avec notre invité, toujours posé de sérieux problèmes à leurs éditeurs. N'oublions pas aussi que Pascal fut tout d'abord un génie scientifique, un mathématicien, un géomètre, un véritable inventeur, avant de devenir un immense philosophe et théologien. À 19 ans, ainsi 19 ans, il conçoit, fabrique et commercialise la pascaline, la première machine à calculer qu'il destinait à son père pour l'aider dans ses opérations. Il est aussi, un peu plus tard, à l'origine de la création des premiers transports en commun. Et c'est seulement après cette fameuse expérience mystique qu'il éprouve en novembre 1654 qu'il se consacre à la réflexion philosophique et religieuse sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques, faisant de lui un polymathe. Alors un polymathe, certainement notre invité va nous expliquer exactement ce que c'est qu'un polymathe. Je dois avouer qu'avant de préparer cette émission, je ne savais pas moi-même ce que voulait dire cette expression, mais en tout cas, Pascal est un polymathe. Et c'est cette vie extraordinaire, courte, hein, il est mort à 39 ans, si bien remplie, si inventive et si profonde que nous allons tenter ce soir de raconter en s'attachant aussi à sa personnalité, parce que nous avons tous l'image d'un Pascal un peu comme celle d'un fantôme du jansénisme, quelqu'un de pas très amusant, il faut le dire, enfin, c'est l'image que nous avons, avec tout ce que cela comporte de rigorisme extrême, de tristesse et de reclus. Était-ce bien là la personnalité et le caractère de Pascal ? Un triste saint est un saint triste, a-t-on coutume de dire ? Alors, ben, nous verrons ce qu'il en était exactement avec notre invité. À sa décharge, il faut souligner sa santé, qui était très fragile, et ça dès son plus jeune âge, où il souffrit de divers maux et de maladies qui le firent malheureusement disparaître très jeune. Donc pour cette première émission, eh bien, nous aborderons plus particulièrement la vie du Pascal, la deuxième étant, comme je le disais, autour de ses œuvres, le 3 septembre. Eh bien, pour cette émission, et pour ces deux émissions d'ailleurs, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean-Baptiste Veffre, qui est un peu notre spécialiste littéraire, très apprécié, spécialiste littéraire du grand siècle, du XVIIe siècle, puisqu'il est venu à ce micro évoquer de grands personnages de cette époque extraordinaire pour la France, qui furent La Fontaine et Molière. Nous recevons donc ce soir pour Pascal, La Fontaine, Molière et Pascal, peut-être l'indépassable trinôme du génie français de ce grand siècle. Jean-Baptiste Veffre, bonsoir.
Bonjour monsieur.
Eh bien, merci d'être à nouveau ce soir à notre micro. Donc, en direct, nous vous recevons avec grand plaisir. Et nous vous remercions tout particulièrement d'être là, parce que vous faites ça uniquement pour le plaisir de nous instruire, puisque vous n'avez rien à vendre, je le souligne à chaque fois, vous n'avez rien à nous vendre en tout cas, autre que votre passion pour ce formidable grand siècle français, après avoir évoqué donc Molière et La Fontaine. Vous venez nous parler de Pascal, pour lequel aussi vous montrez un immense intérêt que vous partagez naturellement avec vos élèves. Nous allons les écouter d'ailleurs, comme pour les émissions précédentes avec La Fontaine et Molière. Vous avez, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, elles ont enregistré 4 textes sur ou de Pascal. Et vraiment, vous les remercierez de notre part. Nous sommes très sensibles à leur attention. Et nous sommes aussi très sensibles que vous sachiez leur partager. Et vous nous direz comment. Parce que comment Pascal peut-il intéresser, finalement, de jeunes lycéennes, celles qu'elles sont, puisque, je le rappelle, que vous êtes agrégé de lettres modernes et professeur à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, dont vous nous ferez entendre ce soir quelques voix. Et vous êtes aussi, je le souligne, parce que c'est important, vous êtes chevalier des Palmes académiques, ce qui est une véritable distinction, ce que j'ai découvert d'ailleurs aussi récemment, que c'est une véritable distinction et qui est accordée à une minorité bien sûr, en reconnaissance hein, pour leur travail, ce qui est votre cas. Alors, pour démarrer cette émission, vous avez souhaité que nous commencions donc par écouter une de vos élèves. Alors, je vous laisse expliquer les raisons pour lesquelles vous avez voulu commencer par un texte particulier, et vous allez nous dire, bien sûr, quel est ce texte, et je vous laisserai, après avoir écouté ce texte, eh bien, nous le commenter.
Il s'agit en fait d'une célèbre page du génie du christianisme de François-René de Chateaubriand, donc écrivain romantique. Un chapitre est consacré au XVIIe siècle, et donc des pages sont consacrées à Pascal. Cette page est extrêmement célèbre. Ben, j'ai envie de vous dire, j'expliquerai pourquoi j'ai choisi cette page, mais je suis sûr que vos auditeurs la connaissent.
Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques. Qui, à 16 ans, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité. Qui, à 19 ans, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement. Qui, à 23 ans, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique. Qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine à naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion, qui depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa 39e année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie, comme du raisonnement le plus fort. Enfin, qui dans les courts intervalles de ses mots, résolut par distraction un des plus hauts problèmes de la géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant de Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Pascal.
Pourquoi avez-vous souhaité, Jean-Baptiste Weffre, commencer par Chateaubriand, évoque Pascal, lu parfaitement par votre jeune élève?
Oui, je remercie Maïlys Butter, une de mes élèves, qui, donc je le souligne, a remporté le troisième prix, à un concours d'éloquence cette année. Donc j'ai choisi cette élève parce que elle le lit et elle parle bien en public.
Vous l'aviez préparé à ça? Au concours.
Voilà, oui, tout à fait. Et donc nous écouterons tout à l'heure une élève qui a remporté le deuxième prix, mais l'année d'avant, à ce même concours d'éloquence. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce texte? Alors, j'aurais pu choisir beaucoup de textes, mais celui-ci est très bien écrit, magnifique. On reconnaît bien la plume de François-René de Chateaubriand. Alors, au-delà, évidemment, de la mythification, hein, nous entrons de plein pied avec le mythe Pascal. Hein, il y a quand même beaucoup de vérité. Certes, Pascal n'a pas, je cite, « inventé les mathématiques ». Mais quand même, Chateaubriand, dans ce style donc très romantique, hein, qui verse, on vient de le voir, volontiers dans l'hyperbole à propos de l'invention des mathématiques, ben, Chateaubriand a très bien saisi, hein, l'un des messages que je voudrais faire passer aujourd'hui, à savoir que Pascal est un génie universel. Et c'est donc sans doute le dernier génie universel. Je n'oublie pas Leibniz. Au XVIIIe siècle, Leibniz, qui au passage d'ailleurs mérite bien mieux que les caricatures que Voltaire en a faites dans le conte Candide ou l'Optimisme. Mais Pascal, avec Leibniz peut-être, est le dernier génie universel. Il a d'abord, il est polymathe. Alors ça fait bien longtemps que je n'avais pas entendu ce terme, monsieur. Bon, la polymathie, hein, c'est le savoir encyclopédique. Hein, ça vient de termes grecs, hein, donc... poly qui veut dire plusieurs, et puis un terme qui est dérivé d'un terme grec qui veut dire apprendre. Donc oui, il est polymathe, c'est ça. Cette polymathie, hein, donc, est absolument fascinante, puisque il est tout à la fois, mathématicien, et d'abord on va le voir géomètre, hein, ce qui n'était pas du tout prévu au départ dans le programme de son père, Étienne Pascal. Il est physicien, hein, et un physicien très attaché à l'expérience, à un moment du XVIIe siècle où... ce XVIIe siècle connaît cette révolution savante, cette révolution scientifique, l'apparition véritablement de la physique expérimentale. Hein. Et Pascal, évidemment, a joué un rôle considérable. Hein. Il est aussi un philosophe. Alors bon, les pascaliens ne sont pas toujours d'accord, fait-il philosophe ou au sens strict ou pas, j'allais dire peu importe. Il est à coup sûr un théologien, hein, un grand théologien. On a même pu considérer qu'il était le précurseur de certaines de la psychanalyse, hein, de Freud. On verra peut-être pourquoi. Il est aussi un entrepreneur. Hein. Il a été l'inventeur de la machine arithmétique. Il a aussi adhéré à une société d'assèchement du marais Poitevin. Et puis, il a inventé le premier réseau de transport urbain public avec les les fameux carrosses à Saint-Saul. Hein. Ça fait quand même beaucoup, effectivement, de facettes. Et le génie universel de Pascal est ce qui me fascine, ce qui nous fascine. Il y a bien d'autres choses qui fascinent, notamment, et si vous me permettez, en forme de préambule, je voulais ajouter un deuxième point, c'est que Pascal est un passionné de la vérité. Sa sœur, hein, Gilberte, qui, on le verra, a écrit une très belle vie. Hein. On s'est demandé longtemps si cette vie était fiable, puisqu'on se demandait si cette vie, au départ, ne relevait pas de la littérature élogieuse, de la rhétorique de l'éloge. En réalité, ce document est extrêmement fiable, hein, nous disent les chercheurs, les pascaliens. Et Gilbert Pascal, à un moment donné, dit la vérité qu'il avait toujours si ardemment recherchée. Et on va le voir, hein, en déroulant cet itinéraire pascalien, que Pascal a cherché la vérité toute sa vie. Il l'a cherché, on va le voir, dans les sciences, il l'a cherché dans l'homme, il l'a cherché dans la religion. Et puisque vous avez parlé du pape François, dans cette lettre encyclique tout à fait touchante pour un littéraire, puisque un pape commente une œuvre, s'attarde, hein, sur plusieurs pages quand même, sur un grand auteur français, parle, et c'est vrai, d'un infatigable chercheur de vérité. Et la troisième chose que je voulais ajouter, c'est que Pascal est aussi un génie précoce. Alors là, le parallèle est plutôt à faire avec Rimbaud, par exemple. C'est-à-dire qu'il a la majeure partie de son œuvre, il l'a écrite en quelques années. Hein. On va le voir entre 1654 et 1658, puisque gravement atteint par la maladie, il est condamné à moins écrire. Et donc, vous voyez, c'est fascinant que cette œuvre qui se cristallise en quelques années, la précocité de ce génie, est tout aussi fascinante que la précocité du génie de Rimbaud.
Alors, génie universel, est-ce oui. Parce qu'il a abordé des matières très différentes.
Oui.
C'est pour cette raison que vous le qualifiez d'universel.
Bien sûr.
Et de génie, pourquoi ? Parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau.
Oui.
Qui n'avait pas été abordé jusqu'ici, de quoi s'agit-il ?
Alors tout cela est très juste, hein, c'est-à-dire qu'en fait son génie s'est développé dans différents champs du savoir, hein, donc d'où la fameuse polymathie. Hein. Donc c'est un génie des mathématiques, c'est un génie des sciences plus généralement, mais c'est aussi un génie en théologie. Et pardonnez-moi, c'est quand même curieux pour un professeur de lettres, j'ai oublié aussi que c'était, c'est un écrivain génial, hein, avec un style qu'on pourra essayer de qualifier. Fait de rationalité et de lyrisme à la fois, et puis un ironiste, un polémiste hors pair. Pascal est un virtuose de l'ironie. Il a embrassé tous les champs du savoir. Alors, oui, c'est aussi un inventeur. Alors, parfois, on lui a prêté des inventions farfelues. Non, il n'a pas inventé la brouette, par exemple, mais Pascal n'avait pas besoin de ça. Il a effectivement, on y reviendra à ce moment-là, inventé ce qu'on a appelé la pascaline. Qui préfigure ni plus ni moins nos ordinateurs et toutes ces méthodes numériques de calcul. Les fameux carrosses à Saint-Saul dont on parlera à la fin.
Lorsqu'on utilise à son égard, et vous venez de l'utiliser, cette formule passionnée par la vérité.
Oui.
De quelle vérité s'agit-il ?
Eh bien, justement, là encore, une vérité, les vérités scientifiques, hein, des vérités sur l'homme, et comme Pascal est un grand croyant, des vérités sur Dieu. Hein. Et ce qui est fascinant, si vous allez voir, c'est qu'il y a une très grande cohérence dans la vie de Pascal, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine des sciences ou dans le domaine théologique, Pascal a toujours essayé de chercher la preuve la plus rigoureuse. Hein. Le scientifique est toujours là, même lorsqu'il fait de la théologie, même lorsqu'il écrit les pensées. J'allais dire aussi, dans une petite anecdote, chez les Pascal, dans la famille Pascal, on ne ment pas. Hein. Ils sont très attachés à la vérité. Et, d'ailleurs, Pascal et Port-Royal, plus généralement, ont été victimes d'une persécution, hein, dans cette querelle qui a opposé les jésuites et les jansénistes. Mais Pascal, jusqu'au bout, a été attaché à ce qu'il considérait être la vérité, en matière de grâce. On reviendra sans doute sur la question un peu délicate, hein, de la grâce, c'est une querelle théologique, hein, dont je parle. Mais cette vérité-là, il l'a cherchée dans tous les domaines, et encore une fois, il a essayé de trouver les preuves les plus rigoureuses. Ce génie puissant donc savait et voulait, si vous voulez, toucher tous les hommes. Et on pourrait dire aussi que c'est un génie très pratique, parce qu'il a toujours été ouvert aux autres, au monde, hein, donc, et ses inventions, il souhaitait les mettre au service du bien public. Hein. Il y avait toujours cette idée qu'il fallait faciliter la vie des gens, et donc Pascal, vous voyez, s'est intéressé à tout, donc à son monde et à tout le monde, même voilà, au petit peuple, au bas peuple, et le carrosse à cinq sols donc a été aussi inventé donc pour eux. Et ça, Pascal le souhaitait, parce que cinq sols, c'était une scène très modique, très dérisoire. Hein. Alors malheureusement, le Parlement de Paris s'en est mêlé et le bas peuple a été donc chassé des carrosses à cinq sols. Ça, j'en parlerai si vous voulez en fin de d'émission. Un génie très pratique, hein. Très soucieux de l'autre, très soucieux du bien commun et donc très soucieux d'aider tout à chacun.
Vous dites, Jean-Baptiste Veffre, que Pascal est attaché à la défense de la vérité jusqu'au bout. Néanmoins, quand on, nous y reviendrons bien sûr dans le détail, quand on regarde l'histoire des provinciales, il s'arrête juste avant le conflit avec le pape, juste avant qu'une sanction ne tombe. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus attaché à la paix qu'à la défense de la vérité jusqu'au bout, comme vous le dites?
Ah ben oui, enfin je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement à la fin de sa vie il entre dans une violente polémique avec ses amis, hein, Pierre Nicole, ses amis qu'on dira jansénistes, mais on reviendra sur le terme janséniste. Pierre Nicole et le grand Arnaud donc lui-même, car il considère que dans cette lutte avec les jésuites, ceux-ci sont devenus un peu trop falots, c'est-à-dire que lui souhaite aller jusqu'au bout, et notamment on impose, vous savez, aux religieux et religieuses et aux prêtres de signer un formulaire anti-janséniste, et Pascal souhaiterait que Port-Royal donc aille jusqu'au bout en refusant de signer ce formulaire. Donc je suis pas du tout d'accord. Alors il s'oppose violemment, hein, à Arnaud, à Nicole, qu'il juge trop timoré. Et se sentant à la fin de sa vie isolé, même dans son groupe, le groupe dit de Port-Royal, il se retire pour se consacrer, pour continuer à se consacrer à ses pensées, hein, donc à son projet d'apologie.
Est-ce que son siècle, le XVIIe siècle, a remarqué le génie de Pascal, tel que vous le présentez ?
Bien sûr. Incontestablement. Bon, pour ne prendre qu'un exemple, bon, puisque sa machine arithmétique, hein, donc ça, cette invention scientifique, hein, puisqu'à l'âge de 19 ans, hein, il élabore, pour soulager, il voit son père, hein, qui à Rouen a été nommé par Richelieu commissaire, hein, fonctionnaire pour l'impôt. Alors les commissaires, hein, sont ces nouveaux fonctionnaires, ce seraient les énarques, si j'ose dire, du régime. Et il voit son père travailler dur la nuit pour calculer, pour faire tous ses calculs, donc puisqu'il est chargé de lever l'impôt de la taille, et pour soulager, pour soulager un autre. Ici c'est son père, pour soulager les travaux de son père et les autres. Il invente et élabore cette pascaline. Donc il élabore, et puis donc il travaille avec un artisan de Rouen, après plusieurs prototypes, hein, donc en 1645, hein, donc le prototype final donc est présenté. Et il faut, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il faut quand même que les auditeurs comprennent que cette machine arithmétique était capable donc de procéder aux 4 opérations, hein, soustraction, multiplication, division et addition, automatiquement. Ça a été à un moment où l'on pensait que seul l'esprit humain pouvait procéder à ces opérations. Ce fut son titre de gloire. Hein. Il y en a eu d'ailleurs d'autres, mais c'est un de ses titres de gloire. C'est-à-dire que cette machine arithmétique, il y en a eu 20 exemplaires, elle était très onéreuse, hein, mais il y en a eu 20 exemplaires, on y reviendra, mais il en a offert un au chancelier Séguier, il en a offert un exemplaire à la reine Christine de Suède, qui était une reine donc très férue de science. Ça a fait sa notoriété. Donc évidemment, pour ne prendre qu'un exemple, le génie de Pascal a été reconnu. Cela étant, Pascal a peu publié. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un fanatique de la publication. Hein.
Et vous l'avez rappelé.
Alors, les provinciales ont été publiées. Les pensées. Voilà. Les pensées, on a même une ébauche d'une 19e lettre. Hein, donc, les pensées n'ont pas été publiées. Quantité de textes, pour des raisons diverses, si vous voulez, ou ont été publiés à titre posthume, ou sont inachevés. Hein. Tant et si bien que Pierre Nicols, vous savez, j'en ai un petit peu parlé, son ami, hein, donc, qui restera son ami malgré cette polémique violente dont j'ai parlé, donc s'inquiète. À sa mort, il est persuadé que malheureusement, la postérité ne pourra pas reconnaître à sa mesure le génie de Pascal, parce que précisément, Pascal a laissé, si j'ose dire, peu de traces. Heureusement, Pierre Nicols s'est trompé, effectivement, donc, Pascal, est un auteur, donc un de nos génies français.
Je reviens sur ma question précédente, que j'ai peut-être mal formulée, sur Pascal préfère la paix éventuellement à la vérité jusqu'au boutiste, parce que j'ai lu cette phrase que je vous livre, hein, elle n'est pas de vous, sur les provinciales. Donc ces 18 lettres qui eurent un immense retentissement à son époque et sur le point d'être condamnées par Rome, c'est la phrase.
Ah ben l'œuvre est mise à l'index.
1657, hein. Pascal s'arrête en pleine lutte, en plein triomphe, et ne publie plus d'autres lettres.
Alors,
d'où ma question. Ce n'était pas une...
Oui, c'est-à-dire que la campagne des provinciales se termine donc pour lui, mais il y avait d'ailleurs l'ébauche d'une 19e lettre. Pour autant, le combat, il le poursuit. Hein, et j'ai essayé de montrer qu'il le poursuit... jusqu'à la fin de sa vie, enfin, il se retire dans les derniers mois. Mais alors, je ne dirais pas que Pascal, si vous voulez, ce n'est pas non plus ce que vous avez dit, mais ce n'est pas un aveu de faiblesse. Hein. Donc, non, justement, ce qui dérange, c'est que Pascal est attaché à défendre la vérité, et avec ardeur, avec passion, hein, ce qui lui a valu, effectivement. C'est un penseur, d'ailleurs, pour aujourd'hui, je ne vais pas partir dans toutes les directions, mais ce n'est pas un révolutionnaire. Alors, on en a fait un réactionnaire, je pourrais montrer que c'est faux, mais c'est un penseur de la résistance. Hein. C'est bien pourquoi, et c'est extrêmement fascinant, Pascal a été annexé par les marxistes. Hein, dans les années 50, on peut faire une lecture marxiste de Pascal.
Qu'as-tu trouvé de marxisant dans l'œuvre de Pascal?
Mais c'est parce que, pour plusieurs raisons, hein, c'est-à-dire que Pascal a développé toute une pensée politique. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on la développe maintenant, mais
c'est l'occasion d'en parler. Si nécessaire.
On l'oublie trop souvent, est un grand penseur politique. Alors, au départ, si vous voulez, et d'ailleurs, il y a beaucoup de résonances, je trouve, avec l'actualité. Au départ, ça, si vous voulez, sa pensée politique ressemble un peu à du Machiavel. Comme le disait mon professeur, grand pascalien devant l'éternel Philippe Sellier, donc Pascal, en tant qu'augustinien, vous verrez pourquoi j'évite le mot janséniste, il faudra vous poser une question sur le mot jansénisme, Pascal augustinien, c'est-à-dire adepte et grand défenseur de la théologie de Saint-Augustin, hein, ce père de l'Église, 354-430, évidemment, après Jésus-Christ, insiste beaucoup sur la corruption de l'homme. Il est persuadé, avec les augustiniens, avec Port-Royal, hein, avec le groupe de Port-Royal, que l'homme est profondément corrompu à cause donc, du péché originel. Hein. Inutile de vous dire que Pascal est un chrétien, donc très fervent. Donc, et le monde, pour eux, est une lutte entre des mois totalitaires, des égaux tyranniques. Et ils voient la société, si vous voulez, pas complètement faux, me semble-t-il, comme les ensembles, les sociétés humaines comme des masses de fauves. Hein. Et Dieu merci, dit-il, ces fauves sont le plus souvent assoupis, notamment parce qu'il y a un chef. Hein, donc, par la force, sait établir une espèce de paix précaire. Alors, Pascal n'est absolument pas dupe de cela. Il constate qu'il faut la force pour établir cette espèce de paix précaire. Mais il vous dira que, effectivement, cette paix est extrêmement précaire, car à tout moment, comme il le dit, la guerre civile peut être allumée par la moindre étincelle. C'est-à-dire que cette paix politique, ou cette structure politique, cette structure sociopolitique est extrêmement fragile. Si l'on touche à un élément, on risque de provoquer la guerre civile. Et Pascal a en horreur la guerre civile. Il a été témoin de la fronde. Il dit que la guerre civile, c'est le pire des maux, hein, en ce sens. et c'est pour ça que je dis que ça ressemble à du Machiavel, finalement, acceptons la structure politique comme elle est. Elle n'est pas parfaite, mais si on commence à toucher un élément, on risque effectivement de, que tout se fracasse. Hein, vous voyez, ça ressemble à du Machiavel.
Qu'aurait-il dit des événements dramatiques que nous vivons en ce moment en France ?
Oh bah, Pascal aurait été horrifié, parce que précisément, c'était le signe que, si vous voulez, cette espèce de, paix sociopolitique extrêmement précaire, est extrêmement précaire, et qu'un rien peut effectivement réveiller ces bêtes fauves que nous sommes, ces mouvements humains. Et Pascal n'aurait pas du tout été étonné, si vous voulez. Il redoutait la guerre civile, il l'avait vue, mais il n'aurait pas été étonné de ce qui se passe. Alors, cela étant, les auditeurs pourraient dire, oui, bon, donc, il n'y a rien de marxisant là-dedans, d'ailleurs, puisque finalement, il faut accepter l'ordre politique. Oui, mais Pascal n'est pas dupe. C'est-à-dire que Pascal a osé finalement, il sait très bien, si vous voulez, que la politique relève souvent de la grimace, hein, que précisément il faut jouer un rôle. Pascal a été un résistant aussi face, je le rappelle quand même, à l'autorité monarchique. Alors ça plaît aux marxistes, ça a plu aux marxistes. Il réduit encore une fois souvent le pouvoir à de la grimace, et ça plaît aussi aux marxistes. Il a été un résistant, et donc vous voyez, on a pu à un moment donné indexer Pascal, ou les marxistes ont indexé Pascal, et on fait une lecture marxisante. Bon, il y a d'autres raisons, hein, je ne peux pas tout expliquer, mais vous voyez qu'on a fait plusieurs lectures de Pascal. Bon, inutile de vous dire que la lecture marxiste est fortement contestable pour autant.
J'aimerais vous poser, comment faites-vous pour intéresser vos élèves à Pascal ? S'intéresse-t-elle vraiment à Pascal ? Nous avons le plaisir d'écouter l'une d'entre elles en introduction, nous allons écouter bien sûr d'autres textes lus par elle. Comment faites-vous pour les intéresser à Pascal ? Et puis finalement, Pascal est-il toujours moderne ? Vous parlez de la lecture marxisante de Pascal, en quoi est-il toujours moderne et en quoi pourrait-il nous parler à notre époque, en 2023.
Alors, on n'a pas besoin de la lecture marxisante pour montrer que Pascal est moderne. Ça, je vous rassure. Pour plusieurs raisons, et là, ça me tient à cœur. C'est-à-dire que Pascal, est un scientifique, et vous l'avez compris, donc un immense chrétien. Mais Pascal, a affirmé, et là, c'est très contemporain, très moderne en tout cas, a affirmé l'autonomie de la science. C'est-à-dire qu'il a affirmé que le domaine de la science est un domaine autonome. Et la foi, dit-il, n'a pas à se mêler de ce domaine. Dès lors que la science a apporté des preuves scientifiques, la foi n'a pas à se mêler, n'a rien à faire, n'a rien à voir avec ce domaine. Donc, si vous voulez, il a affirmé l'autonomie de la science par rapport à la foi. Sans doute que le plus beau texte qui résume cela, c'est un extrait de la 18e provinciale de Pascal. Bon, j'explique le contexte rapidement. Pascal rend les jésuites, encore eux, responsables de la condamnation de Galilée, et il leur dit, mais vous aurez beau condamner Galilée, vous n'empêcherez pas que la terre tourne. Personne ne pourra empêcher que la terre tourne, et personne ne pourra s'empêcher de tourner avec elle. Vous voyez, dans ce petit tour ironique, il attaque les jésuites. Vous voyez que Pascal, résistant en quelque sorte, n'a pas peur des autorités religieuses avec un tel texte. Il n'a peur d'aucune finalement autorité. Foi et raison sont des domaines qui ne sont pas incompatibles, mais il affirme l'autonomie la science, la foi n'a pas à se mêler la science. On aurait dû d'ailleurs en rester là. Mais par ailleurs, il n'exalte pas pour autant la raison. C'est-à-dire qu'il sait très bien que la raison, si vous voulez, est grande. Par la raison humaine, l'homme invente. Il faut user de sa raison, mais il y a un moment donné, il faut, comme il dit, soumettre sa raison. Il y a un titre d'une liasse des pensées qui s'appelle « Soumission et usage de la raison ». C'est-à-dire que Pascal a vu la grandeur de la raison humaine. Il a vu aussi les limites de la raison humaine. Or, on aurait mieux fait de l'écouter, car le XVIIIe siècle est arrivé ensuite, hein, et on a oublié cela. On a exalté les sciences, hein, donc qui étant, si vous voulez, l'épanouissement, un mode d'épanouissement de la raison. Hein, donc, on a exalté les sciences, on a fait, si vous voulez, des sciences une espèce d'ontologie, c'est-à-dire susceptible d'expliquer la totalité du réel. Mais Pascal estime dans ces cas-là que la science sort de son ordre, hein, devient totalitaire, et la science ne peut pas expliquer la totalité du réel. Donc vous voyez, il y aurait encore bien d'autres choses. Pascal a affirmé les droits de la conscience. Hein. Si vous voyez, si vous me permettez encore dans deux minutes, il a affirmé l'autonomie de la science par rapport à la foi, par rapport, si vous voulez, à la religion. Si effectivement, il nous dit qu'il faut accepter la structure politique comme elle est, parce que mieux vaut une structure imparfaite que le chaos. En revanche, si l'autorité politique va trop loin, alors, et si on impose, si l'autorité politique cherche à s'ingérer dans les consciences, alors là, il faut, oui, je pèse mes mots, se révolter, en tout cas résister. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, il affirme aussi les droits de la conscience. Hein, foi et raison, hein, deux poumons, en quelque sorte, comme aurait dit d'ailleurs Jean-Paul II, hein, et il y a là beaucoup de modernité, c'est-à-dire que notre époque, devrait méditer l'œuvre de Pascal, et on aurait dû ne pas oublier certaines leçons de Pascal.
Nous avons un message d'un auditeur, qui est un message assez désagréable. Donc je vais lire, c'est l'occasion de répondre, Jean-Baptiste Oeuf. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de lettres modernes à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur. Cet auditeur n'a pas l'air du tout de partager votre admiration et votre goût pour Pascal. Voici ce qu'il dit. Bonsoir, messieurs les adorateurs de Pascal. Oh, c'est une secte, finalement, qui se porte pas mal, quand même, parce que vous avez commencé par Chateaubriand. Vous êtes en bonne compagnie. L'apport de Pascal, dit-il, en mathématiques, consiste à gonfler des concepts parfois connus depuis les antiquités grecques, chinoises ou indiennes. En physique, ajoute-t-il, son apport est marginal. En tant qu'ingénieur, ses inventions sont anecdotiques. Visiblement, vous n'êtes ni mathématicien, ni physicien, ni ingénieur. Votre discours hagiographique frise l'idolatrie. Alors, que répondriez-vous
à cet auditeur ? Je crois avoir dit d'ailleurs qu'on a prêté à Pascal toutes sortes d'inventions, l'invention de la brouette, par exemple, ce qui est tout à fait farfelu. Pascal n'a pas inventé l'hydrostatique ou que sais-je. Oui, je suis un littéraire, mais enfin bon, j'ai quelques connaissances scientifiques aussi. J'ai une épouse qui est professeure de sciences physiques. Hein, et je pense que. donc, si Pascal n'a pas tout inventé.
Ça s'appelle un procès d'intention. L'apport de notre auditeur.
Si Pascal n'a pas tout inventé, enfin, écoutez, la machine arithmétique, je ne sais pas qui l'a inventé dans ces cas-là. Hein, donc, n'oublions pas, ce qu'il a appelé la géométrie du hasard. Alors, si pour être extrêmement rigoureux, mais d'ailleurs, je m'apprêtais à le faire, hein, cher auditeur, donc la géométrie du hasard, c'est cette très belle expression de Pascal pour désigner le calcul des probabilités. Hein. Donc, on a souvent dit que Pascal avait inventé donc le calcul des probabilités, très exactement, il a jeté les bases du calcul des probabilités, d'ailleurs je n'oublie pas avec Pierre Fermat, hein, le Toulousain, en ce sens, le fait qu'il est, il a découvert, si vous voulez, et ça c'est quand même premier à le faire avec Pierre Fermat, il a découvert que des éléments qui relèvent de l'aléatoire pouvaient être mathématisés. Hein, l'auditeur me cite, à part Pierre Fermat, on est bien d'accord, un autre avant Pascal. Moi, je n'en connais pas. Hein. Donc, il a incontestablement jeté les bases du calcul de probabilité. Il faudrait vous expliquer comment. Il a aussi jeté les bases du calcul infinitésimal lorsqu'il a résolu les difficiles problèmes de la cycloïde, hein, ou de la roulette. Cette cycloïde, vous savez, c'est cette courbe que dessine la roue, la jante, si vous voulez, d'un vélo dans lequel on a mis un clou. Hein, il jette les bases à ce moment-là du calcul infinitésimal. Et puis, tout de même, avec l'expérience, l'expérience du Puy de Dôme, hein, celle du 19 septembre 1647, eh bien, il a trouvé la preuve la plus rigoureuse, démontrant donc ce qu'il appelle la pesanteur de la masse de l'air. Alors, il reprend les hypothèses de Torricelli et l'expérience de Torricelli, hein, mais en pratiquant cette expérience de Torricelli en haut du puits, ou en faisant pratiquer, hein, puisque c'est pas lui qui s'est déplacé, lui il l'a fait en haut de la tour Saint-Jacques et en bas de la tour Saint-Jacques, mais en pratiquant donc l'expérience de Torricelli en bas du Puy-de-Dôme et en haut du Puy-de-Dôme, eh bien il apporte la preuve la plus rigoureuse de cette pesanteur de la masse de l'air, à savoir la pression atmosphérique. Et s'il faut faire un petit peu de science, ça j'en suis tout à fait capable, si vous me permettez 2 minutes, on sait très bien, ce monsieur sait très bien que la pression atmosphérique résulte du choc, hein, des molécules sur vous-même, monsieur, sur moi, sur toute surface, sur un objet, hein. Plus on monte en altitude, eh bien, plus l'air se raréfie et plus, effectivement, les molécules, les chocs de molécules se raréfient eux-mêmes et donc plus la pression diminue. Et c'est ça qu'il découvre, hein, ou qu'il confirme très exactement par son expérience du Puy de Dôme. C'est un grand expérimentateur. Hein. Il a, grâce à Pascal, grâce à Torricelli, Pascal, Pierre Fermat, il, ici, ruine l'antique physique, l'antique physique, celle notamment d'Aristote, qui considérait que la nature abhorrait le vide. Hein. Il a eu une intuition avec Torricelli, l'existence du vide, et il a cherché la preuve la plus rigoureuse. Bah, écoutez, il n'a pas tout inventé, mais reconnaissons-lui un certain nombre de choses.
Est-il exact qu'on lui prête l'invention de la roulette du dentiste ?
Non, c'est une des fantaisies.
À l'occasion d'une rage de dents, il aurait inventé. Jean-Baptiste Veuf, je vous propose ce matin que nous rentrions dans sa vie, puisqu'il est né il y a 400 ans, quasiment jour pour jour, le 19 juin 1623, à Clermont. Voilà, nous vous écoutons pour nous parler de son enfance, de sa famille, qui a joué un rôle essentiel, hein, dans sa formation et dans sa destinée.
Oui, donc Pascal naît le 19 juin, du coup j'en parle tout de suite, il meurt aussi un 19, hein, le 19 août, et je parlais de la grande expérience du Puy-de-Dôme qui a lieu un 19 septembre.
Alors, très marqué par le chiffre 19.
Oui, 19, hein. Alors 19 plus 19, ça fait 38, moi je rajouterais le dieu de Pascal, hein, la fameuse formule le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom des savants et des philosophes, donc 38 plus 1, ça fait 39, bon un petit calcul amusant, hein, rappelle que Pascal est mort jeune à 39 ans et 2 mois. Alors il naît en 1623, donc à Clermont, hein, Clermont en Auvergne, hein, donc je passe vite au début, hein, il perd très vite, son père Étienne Pascal est un magistrat, hein, donc, mais aussi un magistrat très cultivé, comme les magistrats à l'époque, il y a d'ailleurs encore beaucoup de magistrats cultivés, sa mère c'est Antoinette Bégon, hein, donc il a une sœur aînée, Gilberte, celle qui écrira, quelques mois après la vie de Pascal, la mort de Pascal, pardon, celle qui écrira donc la vie de Monsieur Pascal, hein, donc par Gilberte Perrier ou Gilberte Pascal, peu importe. Et puis il a une petite sœur, hein, qui sera religieuse à Port-Royal, la fameuse Jacqueline. Hein. Alors parlons un peu de son éducation. Une éducation là encore hors norme, hein, c'est-à-dire que Pascal aurait dû aller comme les camarades donc de son milieu, hein, au collège. N'oublions quand même pas que Corneille est allé est élevé chez par les jésuites, Molière est élevé par les jésuites, hein, et Pascal lui, eh bien, est éduqué par son père, c'est-à-dire que Pascal n'a pas mis le pied au collège, hein, ce qu'on appelait les collèges à l'époque. C'est son père qui prend en charge l'éducation de ses 3 enfants, du petit Pascal en particulier. Hein, et là, il a un programme d'éducation tout à fait précis. C'est une éducation qui se veut humaniste. Hein, le XVIe siècle n'est pas loin. D'abord, l'apprentissage des langues, la structure des langues. Et il ne souhaite pas que, pourtant, lui, le mathématicien et l'homme cultivé, que le jeune Pascal s'intéresse trop tôt aux mathématiques. Et donc, il réserve l'apprentissage des mathématiques à l'âge 15 ans environ, hein, parce qu'il estime que les mathématiques vont capter capter l'attention donc du jeune Pascal et le détourner des autres domaines du savoir. Donc un programme d'éducation tout à fait précis, un programme d'éducation néanmoins qui va être, si j'ose dire, contrarié par le génie donc de Pascal. Et on peut écouter le deuxième extrait si vous le voulez. Donc puisque en 1631 la famille Pascal quitte Clermont pour Paris. Et à l'âge de 11 ans, Pascal...
Pardonnez-moi, il quitte Clermont pour Paris, c'est vraiment la volonté du père d'offrir à son fils une éducation soignée, c'est pour ça
qu'il... Ah non, pas du tout, c'est parce qu'il a su... Non.
C'est parce qu'il a une mutation, quelque sorte.
Oui, et pour l'éducation, sa décision, et là il n'en changera pas, c'est d'assurer... Donc, lui seul,
lui-même,
son éducation.
Pas pour des raisons. Hein.
Donc, et à l'âge de 11 ans, Pascal écrit un petit traité sur les sons. On écoute le témoignage de sa sœur, un extrait lu par Mademoiselle Bonnefous, Alban Bonnefous, extrait de la vie de Monsieur Pascal.
Alors, avant d'écouter cet extrait, on va passer un message de la radio. Et ou après, peut-être, c'est plus simple. Alors, après avoir écouté donc l'une de vos élèves, c'est sa sœur qui s'exprime, non?
Oui.
C'est ça?
Alors, oui, c'est ça. C'est Gilbert Perrier, Gilbert Pascal. Hein, donc,
voilà, nous écouterons le message de la radio.
Sa principale maxime dans cette éducation était de tenir toujours cet enfant au-dessus de son ouvrage. Ce fut par cette raison qu'il ne voulut point commencer à lui apprendre le latin qu'il n'eût 12 ans. Afin qu'il le fît avec plus de facilité. Pendant cet intervalle, il ne le laissait pas inutile, car il l'entretenait de toutes les choses dont il le voyait capable. Il lui faisait voir, en général, ce que c'était que les langues. Il lui montrait comment on les avait réduites en grammaire sous de certaines règles. Que ces règles avaient encore des exceptions qu'on avait eu soin de remarquer. Et qu'ainsi, on avait trouvé moyen par là de rendre toutes les langues communicables d'un pays à l'autre. Cette idée générale lui débrouillait l'esprit et lui faisait voir la raison des règles de la grammaire, de sorte que, quand il vint à l'apprendre, il savait pourquoi il le faisait, et il s'appliquait précisément aux choses à quoi il fallait le plus d'application. Après ces connaissances, mon père lui en donna d'autres. Il lui parlait souvent des effets extraordinaires de la nature, comme de la poudre à canon, et des autres choses qui surprennent quand on les considère. Mon frère prenait grand plaisir à ces entretiens, mais il voulait savoir la raison de toutes choses. Et comme elles ne sont pas toutes connues, lorsque mon père ne les disait pas, ou qu'il lui disait celles qu'on allègue d'ordinaire, qui ne sont proprement que des défaites, cela ne le contentait pas. Car il a toujours eu une netteté d'esprit admirable pour discerner le faux. Et on peut dire que toujours et en toute chose, la vérité a été le seul objet de son esprit, puisque jamais rien ne l'a pu satisfaire que sa connaissance. Ainsi, dès son enfance, il ne pouvait se rendre qu'à ce qui lui paraissait vrai évidemment, de sorte que, quand on ne lui disait pas de bonnes raisons, il en cherchait lui-même. Et quand il s'était attaché à quelque chose, il ne la quittait point qu'il n'en eût trouvé quelqu'une qui pût le satisfaire. Une fois, entre autres, quelqu'un ayant frappé à table, sans y penser, à un plat de faïence avec un couteau, il prit garde que cela rendait un grand son, mais qu'aussitôt qu'on eut mis la main dessus, cela l'arrêta. Il voulut en même temps en savoir la cause, et cette expérience le portant à en faire beaucoup d'autres sur les sons, il y remarqua tant de choses qu'il en fit un traité à l'âge d'11 ans, qui fut trouvé tout à fait bien raisonné.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Veffre, qui est professeur agrégé de lettres modernes à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur. Et comme vous pouvez le constater, il sait faire partager sa passion de Pascal auprès de ses élèves, dont nous venons d'écouter une d'entre elles particulièrement évoquer ce que Gilbert, la sœur de Pascal, disait de lui lorsqu'il avait donc 11 ans, nous avons évoqué tout d'abord dans la première partie de notre discussion en quoi consistait le génie universel de Pascal, en quoi consistait sa modernité. Et nous abordons maintenant la vie de Pascal, ça, plus particulièrement son enfance, où Jean-Baptiste Veuf nous explique que son père a souhaité se consacrer lui-même tout d'abord à son éducation. Après Clermont, eh bien, ils sont montés ensemble en famille, parce que leur mère est morte très jeune, eh bien, à Paris. Jean-Baptiste Veuf, là aussi, félicitations pour l'intervention, hein, la lecture parfaite, très compréhensible, très claire de votre élève. Que voudriez-vous souligner particulièrement de ce que dit Gilberte, sa sœur?
Alors, c'était pour faire découvrir un extrait peut-être moins connu, hein, de cette vie de Monsieur Pascal, que Gilberte Pascal donc a écrite donc quelques mois, hein, après, quelques semaines après donc la mort de Pascal en 1662. C'est un texte qui peut paraître hagiographique, mais les chercheurs actuels montrent bien qu'il est d'ailleurs très bien écrit, hein. Pascal, Gilberte Pascal, bon, connaît bien son frère, mais sait écrire. Chez les Pascal, on sait très bien écrire, hein. Jacqueline Pascal écrivait de la poésie, et on pense qu'elle aurait été certainement une très belle plume du siècle si elle n'était pas devenue religieuse, hein, cloîtrée. Vous aurez remarqué la phrase « La vérité a été le seul objet de son esprit, hein, ». Il est ce passionné de la vérité qu'il a cherché dans tous les domaines, avec aussi cette petite anecdote, c'est-à-dire... À 11 ans, eh bien, il se tourne déjà, si je veux dire, vers la physique expérimentale, puisque il frappe à table un plat de faïence avec un couteau. On a tous fait ça finalement avec enfant, mais simplement on n'est pas tous Pascal. C'est-à-dire que à partir de cette expérience, eh bien, il écrit un petit traité sur les sons, eh bien, qui est très court, hein, mais très remarquable. Il n'a que 11 ans. Alors le programme du père va être modifié. Alors, je passe un peu vite sur cette anecdote, puisque donc à l'âge de 12 ans, je rappelle que Pascal n'a pas encore fait de mathématiques, hein, puisque son père avait un programme précis, avait réservé un programme précis, pour lui. Simplement, le jeune son père Étienne Pascal, donc mathématicien et co-animateur, on va dire, d'une académie, hein, avec le père Mersenne, qui réunit des scientifiques, hein, et il entend, hein, les discussions donc de ces savants. Simplement, il n'a pas appris le vocabulaire mathématique, hein. Et il a inventé le sien, donc ce qu'on appelle cercle, il appelle ça des ronds, et ce qu'on appelle ligne, il appelle ça des barres, hein. Et un jour, son père, je le rappelle, alors que le jeune Pascal n'a pas eu de leçons de mathématiques en bonne et due forme, eh bien, le voit tracé sur des dalles. Alors, sont-ce des dalles de la cuisine ou autre, nous n'en savons rien. Et avec stupeur, il découvre que le jeune Pascal est en train de démontrer, avec son propre vocabulaire, la 32e proposition d'Euclide. Je le répète, donc, n'ayant jamais lu Euclide. La 32e proposition d'Euclide, hein, c'est donc la somme des trois angles d'un triangle est égale donc à deux angles droits ou à 180 degrés. Et là, c'est la stupeur dans la famille. Étienne, le père, se rend bien compte que son fils est hors norme, mais là, il prend conscience de toute la mesure du génie de son fils, hein. Alors, le punit-il? Non. il lui offre un Euclide, hein, que Pascal lira à ses heures de récréation, s'il vous plaît, hein. Et alors, à l'âge de 16 ans, il publie un essai sur les coniques, hein, les sections de cônes, hein, je rappelle, hein, cercle, parabole, hyperbole, ellipse, figure géométrique, parce que je méfie de ce que va dire notre auditeur, qu'il n'a pas inventé, mais il trouve, hein, des démonstrations plus puissantes encore, publie cet essai qui est tout à fait remarquable. Alors nous arrivons, hein, aux années 1642-1645, hein, je passe un peu vite, enfin vous m'interrompez si je vais un peu vite. Pascal Étienne Pascal donc, est nommé donc, commissaire pour l'impôt donc, à Rouen, après eu d'ailleurs quelques déboires avec l'autorité politique et avec Richelieu, mais bon, grâce à l'intervention de la petite Jacqueline Pascal, très douée pour le théâtre et qui présente une pièce devant le cardinal de Richelieu, et les auditeurs savent combien le cardinal de Richelieu aimait le théâtre, eh bien le Richelieu... pardonne à Étienne Pascal, donc puisque celui-ci avait participé, on dirait aujourd'hui, à une manifestation. Donc il avait placé une partie de sa fortune sur les donc sur des rentes de l'hôtel de ville, et puis à cause de la guerre, donc contre l'Espagne, eh bien les rentes n'étaient plus payées. Hein, donc Étienne Pascal, le père, donc s'était insurgé avec d'autres. Hein, bon, donc il est puni par l'autorité politique, mais donc finalement pardonné. Et d'ailleurs donc pardonné définitivement, si j'ose dire, puisqu'il est envoyé à Rouen pour et il est nommé commissaire, hein, donc sorte d'énarque de l'époque, pour lever l'impôt de la taille. Alors la taille était un impôt particulièrement donc impopulaire, car inégalitaire, hein, c'est-à-dire que les nobles, le clergé, et les grands bourgeois, hein, donc des villes, ne payaient pas cet impôt. Donc il arrive dans une ville en plein chaos, hein, donc à Rouen. Bon, fait son travail assez remarquablement, astreint à des calculs. Le soir, le jeune Pascal, qui a 19 ans, comme vous l'avez rappelé, voit son père, hein, donc travailler dur, entre 1642 et 1645, la fameuse pascaline, la fameuse machine arithmétique. Mais là, je n'y reviens pas. Il travaille, vous voyez, avec un artisan. Hein, donc, et il est entrepreneur à ce moment-là. Il parle dans un de ses textes de ses ouvriers, hein, sans que ça soit péjoratif. Donc il est à la tête d'une petite société. Comme il sera à la tête d'une petite société, ou comme il adhérera à une société, celle de l'assèchement du Marais Poitevin, mais là quelques années seulement, et comme il fondera une petite société, donc avec le duc de Roannaise et deux autres hommes, donc pour fonder l'expérience des carrosses à cinq sols. C'est pour soulager, hein, donc, le travail de son père qu'il invente cette machine arithmétique. 20 exemplaires en tout, il nous en reste 9 aujourd'hui. Alors vous voulez tout savoir, il y en a 4 au musée du CNAM, hein, au musée des arts et métiers. Il y en a 2 au musée de Clermont. Il y en a une dans une collection particulière, la collection Parcé. Et puis il y en a une aussi au musée des mathématiques de Dresde. Il en a offert ce Pascal aussi à la reine Christine de Suède.
Peut-on considérer que l'éducation de Pascal, que son père considère que l'éducation de son fils est achevée?
Dans quel sens?
Quand ils sont ensemble à Rouen, que à 19 ans, Blaise Pascal conçoit cette pascaline pour aider son père. Il va la commercialiser, une vingtaine d'exemplaires. Voilà, l'éducation de Pascal est terminée.
Après, le génie de Pascal...
Il vole de ses propres ailes.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors après, ce Pascal, donc, passionné de la vérité, on va le voir, va continuer ses recherches, va faire des lectures, hein, donc, de grands auteurs spirituels, d'ouvrages philosophiques, etc.
Nous allons l'évoquer, voilà. Et notamment, si vous voulez bien, sa première conversion.
Eh bien voilà, à Rouen.
Ils sont à Rouen, justement.
Ils sont
à
Rouen.
C'est bien de nous avoir amenés jusqu'à Rouen, et vous allez évoquer sa première conversion, et puis aussi les fréquentations de son père qui vont bien sûr influencer ses propres fréquentations, ce qui nous amène au message d'une auditrice qui nous dit: quand on parle de Pascal, on évoque souvent les jansénistes par contre-coup, mais on s'arrête là. Oui. C'est un trait général de toutes les émissions de radio, sur Radio Courtoisie ou ailleurs. Ici, pour une fois, on faisait un exposé un peu détaillé, avec exemples expressifs, nous faisant mieux connaître qui sont ces mystérieux jansénistes dont on parle beaucoup, mais sans que l'on sache quoi que ce soit de sérieux sur eux. Alors. Avec d'ailleurs à prévoir un bref, très bref crochet vers les jésuites, nous dit-elle, afin de savoir sur quel point de doctrine s'affrontaient ces deux courants. Alors pour entrer dans le...
Très important ça, très très important.
Voilà, donc on va... C'est le moment peut-être de répondre.
Oui.
Puisque c'est les premières rencontres de Pascal avec les jansénistes, justement, datent de cette époque.
Précisément, c'est 146.
Rouen, où c'est son père qui reçoit, qui est proche des jansénistes, et c'est comme ça que Blaise va rencontrer les jansénistes. Alors, je vous rends la parole, Jean-Baptiste Lemaître, pour lui évoquer le jansénisme et le jansénisme sur et Blaise Pascal, naturellement.
Je remercie cette auditrice, hein, je crois, qui pose une question très intéressante. Et si elle a le courage de m'écouter le 3 septembre, peut-être si je n'ai pas le temps de tout dire, nous y reviendrons. Donc elle se rassure parce que, effectivement, ça nous emmène donc loin, mais c'est essentiel. Je commence par dire d'ailleurs que je vais éviter autant que possible le terme janséniste. Alors, j'en dis pas plus, ça va entretenir le suspense, comme on dit. En 1646, en janvier 1646, Étienne Pascal, le père, fait une chute sur la glace et il se démet la jambe. Et il est soigné par deux gentilshommes qui ont des compétences en chirurgie. Et ces deux gentilshommes sont des disciples du curé de Rouville, qui se situe proche de Rouen. Lui-même, disciple de Saint-Cyran. Alors Saint-Cyran était le directeur spirituel de ce monastère de Port-Royal. Hein. Il y a eu jusqu'à deux maisons. Il faudrait vous expliquer après. Port-Royal, donc des Champs. La maison ensuite est fermée provisoirement parce que les religieuses, ces malheureuses religieuses, sont victimes d'une épidémie de paludisme, et donc s'installe à Paris, Port-Royal, de Paris. Et puis, la communauté se développant de manière tout à fait extraordinaire et rayonnant sur les milieux culturels, il faudrait vous montrer cela, et ayant eu un impact considérable sur l'âge classique, rouvre la maison des Champs, car ces messieurs de Port-Royal, ces hommes, sont allés, après le départ des religieuses, à Port-Royal des Champs. Ils ont contribué fortement à assainir la région, très marécageuse, se retirait pour prier, pour mener une vie de solitude, les solitaires de Port-Royal. Hein. Et donc, l'abbé de Saint-Cyran était le confesseur de ces religieuses. Port-Royal, c'est d'abord, on l'oublie, un monastère de religieuses cisterciennes, qui mettent une place particulière, qui consacre une place particulière à l'adoration du Saint-Sacrement. Hein. Et elles sont des grandes lectrices de Saint-Augustin. Hein. Et autour de Port-Royal, va se constituer ce qu'on peut appeler un groupe de Port-Royal, parmi lesquels figurent des noms comme Pascal, Pierre Nicole, qui fut le maître de Racine, l'un des maîtres de Racine, La Rochefoucauld, et ce groupe de Port-Royal a des amis, parmi lesquels figure la marquise de Sévigné, donc très imprégné d'augustinisme, de la théologie de Saint-Augustin. Vous voyez que j'ai encore évité jansénisme, je vais expliquer pourquoi. Madame de Lafayette, c'est-à-dire que de grandes plumes sont profondément influencées par la théologie de Saint-Augustin, par la vision du monde, de la société et de l'amour, qui est celle de Saint-Augustin. Alors, ces deux gentilshommes, de ce curé de Rouville, lui-même disciple de Saint-Cyran, mettre dans les mains de la famille Pascal des textes de Port-Royal, et en particulier le texte du Grand Arnaud, de la fréquente communion, mais aussi des textes de Jansénius, l'auteur de l'Augustinus, publié en 1640, qui se veut une synthèse de la théologie de Saint-Augustin sur la grâce. Et là, c'est ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire que toute la famille, Pascal en tête, se convertit. Alors attention, la conversion au XVIIe siècle, ce n'est pas le passage, évidemment, de l'athéisme ou de l'incroyance à la foi. Conversion au sens d'approfondissement de la vie spirituelle. Pascal était chrétien depuis le plus jeune âge. Mais ce qu'on appelait la première conversion de Pascal, c'est une étape essentielle dans cet approfondissement de la foi. Il y aura la deuxième conversion, ce qu'on appelle la nuit de feu, et puis sans doute une troisième lorsque, à la fin de sa vie, il a une préoccupation pour les pauvres tout à fait touchante et tout à fait respectueuse aussi. Ce n'est pas une charité bas de gamme. Alors Pascal se met à lire du Saint-Augustin, se met à lire l'Augustinus de Corneille Janssen, l'évêque d'Ypres, Janssénus étant son nom latinisé. Il se met à lire Janssénus, il se met à lire Antoine Arnauld, il se met à lire les grands maîtres spirituels et découvre cette grande école de spiritualité. Alors oui, qu'on a coutume d'appeler le jansénisme. Hein, mais là, les chercheurs, les plus grands pascaliens, préfèrent à juste titre de parler d'augustinisme. Alors vous allez me dire, bon, c'est des querelles de mots. Pas du tout. Il faut prendre conscience que ceux qu'on appelle les jansénistes, hein, ne se sont jamais appelés jansénistes. C'est une appellation non revendiquée. Et pour cause, janséniste est une insulte imaginé par les jésuites hein, pour discréditer donc les augustiniens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les jansénistes, c'est-à-dire ceux qui se veulent très fidèles et très sincères défenseurs de la théologie de Saint-Augustin. Donc, si vous voulez, le terme janséniste est beaucoup trop étroit, beaucoup trop étriqué. C'est un terme polémique. Hein. Donc, si j'ose dire, je ne suis pas chercheur, mais il y a de la recherche littéraire. Hein. Il n'est pas très rigoureux de parler de jansénisme ou de dire Pascal est janséniste. C'est une appellation non revendiquée. Donc, c'est une insulte imaginée par les jésuites dans une polémique. Et effectivement, il est préférable de parler d'augustinien, de groupe de Port-Royal, si vous voulez, de port-royaliste ou d'augustinisme.
Alors, c'est une affaire de famille. Toute la famille se convertit entre guillemets donc à Saint-Augustin, à l'augustinisme, en tête bien entendu Étienne le père, mais les deux sœurs et Blaise Pascal sont passionnés par l'enseignement de Saint-Augustin. Qu'est-ce qui attire Blaise Pascal particulièrement dans ces enseignements de Saint-Augustin tels qu'ils sont aussi présentés par les grandes plumes de Port-Royal?
Une ardente recherche de la vérité, j'y reviens, aussi une manière de vivre sa foi, qui est une manière vivante, c'est-à-dire que il, dans ses écrits spirituels, il découvre un rapport plus singulier, plus personnel avec la divinité, avec Dieu, avec le Christ, hein, la grande personne de la Sainte Trinité qu'affectionne Pascal particulièrement, c'est Jésus-Christ. Hein, il y a de très beaux textes sur le Christ, qu'on croit ou qu'on ne croit pas d'ailleurs, auxquels on croit ou qu'elle ne croit pas, peu importe. Mais si vous voulez, il passe d'une foi d'éducation, on va dire, à une foi beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère. Ce qui l'intéresse, c'est cette rencontre personnelle avec un Dieu qui n'est pas un Dieu concept, un Dieu abstrait, mais avec un Dieu personne. Blaise et Jacqueline, la famille revient ensuite sur Paris et Blaise et Jacqueline commencent à devenir des familiers de Port-Royal de Paris. Et Pascal, ayant beaucoup lu, ayant parachevé sa formation spirituelle, religieuse, est capable de dire à Port-Royal, ce que vous défendez contre les jésuites, c'est conforme à la théologie de Saint-Augustin, parce que Pascal, effectivement, a lu les écrits de Saint-Augustin. Je rappellerai quand même que Saint-Augustin, l'auteur de la première autobiographie, hein, les confessions, mais aussi de quantité de traités, etc., est considéré à l'époque, et encore maintenant je crois, comme le docteur de la grâce, hein, docteur gratia c'est son titre, et comme l'un des plus grands théologiens, l'un des plus grands pères de l'Église, peut-être même le plus grand père, mais je ne voudrais pas froisser les thomistes s'il y en a qui nous écoutent. Hein. Il défendra les positions de Corneille Janssen dit Jansénius, qu'il ne juge pas du tout hérétique, hein, mais tout à fait conforme à la théologie de Saint-Augustin. Alors après s'engage la controverse jésuite janséniste. Hein. Mais je rappelle que je préférerais parler d'augustinien. Hein, voilà. D'augustinisme.
Nous avons de nombreuses réactions d'auditeurs, je vous les lis. Tout d'abord, un auditeur qui nous dit, si je comprends bien, la pascaline a été inventée pour faciliter le travail d'un collecteur d'impôts. Ah. Je pense que cette machine n'a pas dû être très populaire.
Oui, j'aime bien l'humour de... Pascal était un ironiste, un humoriste. Petite pause simplement pour vous expliquer que Pascal n'est pas du tout le triste sire ou le triste saint que... Je vous prie de m'excuser, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas, que vous avez présenté. Ça, c'est un mythe romantique. C'est-à-dire que ce Pascal triste, rigoriste, ne riant jamais, c'est une invention des romantiques. Il y a les écrits de Pascal sont traversés par beaucoup d'ironie. Je ne vais pas vous dire que c'était le sketch permanent dans la famille Pascal, hein, mais Pascal, il faudrait vous l'expliquer d'ailleurs. voyez, en termes de... Bon, je réponds un tout petit peu, parce que je n'ai pas tout à fait fini de répondre à la question de l'auditrice, mais enfin, on y reviendra sans doute peut-être le 3 septembre. Donc, Pascal, vous voyez, par exemple, on dit souvent, Pascal est janséniste, il est rigoriste, il est austère, donc, et puis tout ce qu'il y a derrière. Eh bien, Pascal a développé une morale, hein, mais la morale, ce n'est rien d'autre qu'agir en vue du bien, mais ce n'est pas du tout la morale du... il ne développe pas une morale du devoir, il développe une morale du bonheur. Hein, et ce faisant, il se fonde sur le désir de l'homme. Il constate, comme il le dit dans les pensées, tous les hommes recherchent d'être heureux. Hein, cela est sans exception. Hein. Donc les hommes désirent être heureux, et on le verra le 3 septembre, dans son apologie, il parle du désir de l'homme. Ce désir d'infini, ce désir d'un bonheur infini. Hein, et la morale de Pascal, vous voyez, c'est un argument parmi d'autres, n'est pas du tout une morale barbante pour père fouettard. C'est une morale du bonheur, c'est pas une morale du devoir.
Quelques mots sur sa personnalité, vous l'avez un petit peu évoqué. Que pourriez-vous dire de son caractère, de sa personnalité, et puis peut-être évoquer, parce que ça a certainement joué un rôle, sa santé, qui est très mauvaise.
Oui, alors une santé très fragile, hein, dès le plus jeune âge. Donc, n'a pas facilité le travail intellectuel de Pascal, surtout à la fin de sa vie. Je ne reviens pas. Donc, ce n'est pas un Pascal triste. Sassi, le confesseur de Port-Royal, lorsqu'il rencontre Pascal, parle de un pénitent s'y réjouit. Hein, vous voyez, il y a une joie pascalienne. Hein, on va bientôt parler, ou alors peut-être la semaine. Je ne sais pas quand on en parlera, mais bon, il y a une joie pascalienne. Hein, lors de sa deuxième conversion, en 1654, cette fameuse nuit de feu, la nuit du 23 novembre 1654, l'un des mots les plus répétés dans ce fameux mémorial, hein, qui est la trace d'une expérience religieuse très brûlante, il y a la répétition du mot joie, hein, joie, 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 pleurs de joie. Hein. Pour répondre aussi à votre question, Pascal, ce qui déterminerait la pensée de Pascal, enfin comment dire, ce qui permettrait de cerner la personnalité de Pascal, c'est encore une fois l'expérience. On doit toujours, si l'on veut convaincre, se fonder sur l'expérience. Et si l'on veut convaincre l'adversaire, on ne le prend pas, on ne l'attaque pas brutalement, frontalement. Hein. C'est ce qu'il essaiera de faire dans son apologie, hein, dans ce qu'on a appelé l'apologie, hein, ce qu'on appelle les pensées. Hein. Il a voulu écrire une apologie de la religion chrétienne. Évidemment, hein, on ne peut pas attendre autre chose que de lui. Hein. Une apologie, si vous voulez, à l'époque, les apologies, il y en avait des quantités, mais elles étaient extrêmement agressives. S'adressant à l'incroyant, au libertin, comme on disait à l'époque, elle l'agressait directement. Hein. Pascal voit tout à fait que c'est inutile et inefficace. Hein. Il fait la part de ce que pense le libertin, on le verra le 3 septembre, de ce qu'est l'homme dans son quotidien, hein, on verra la théorie du divertissement, etc., de ce qu'il vit dans son quotidien, hein, et il décrit l'homme dans une espèce d'anthropologie remarquable. Une universitaire nous disait que dans les colloques sur Pascal, alors on peut l'attaquer sur sa foi, mais son diagnostic, si j'ose dire, sur l'homme, il est incontestable. Il est très difficile à contester, mais ça, on verra peut-être ça en septembre.
D'abord, deux autres messages que je vous propose. Jean-Baptiste rappelle que nous avons le plaisir de vous recevoir pour évoquer Pascal. Ça se fera naturellement en deux émissions. La deuxième émission, la suite, étant le 3 septembre, émission de rentrée donc. Vous êtes agrégé de lettres modernes et professeur à la maison d'éducation de la Légion d'honneur et... Vous faites partager à vos élèves, nous avons le plaisir de les entendre. D'ailleurs, il y a d'autres extraits lus par elles que vous avez préparés. N'hésitez pas à nous les proposer en fonction de l'avancement, à moins que vous préfériez les conserver pour le 3 septembre. Alors, je poursuis avec les messages de nos amis auditeurs et auditrices. Très bonne émission et très animée, nous dit cet auditeur qui vous remercie. J'ai trouvé, dit-il, l'auditeur précédent un peu dur. Et concernant ses remarques sur votre idolâtrie envers Pascal, il rappelle que lorsqu'on parle de Pascal, on est au XVIIe siècle et non pas au XXIe siècle. Il précise que Pascal a eu des intuitions anticipatrices fantastiques. En physique, il a beaucoup travaillé sur le vide, vous en avez parlé, à ce sujet dans une lettre de sa correspondance avec le Père Noël, un prêtre.
Ah, ben voilà.
On trouve l'assertion suivante. Le vide tient le milieu entre la matière et le néant. Et c'est exactement ce qu'a compris la physique du 21e siècle, nous précise notre ami auditeur. Le vide n'est pas vide, dit-il. Il comprend des champs d'énergie, etc. On a fait surgir le fameux boson de Higgs du vide. En le chauffant, il était endormi. Le vide est stupéfiant.
Oui,
beau message. Hein.
Oui, très beau message. Le vide est stupéfiant. Notre auditrice, excusez-moi, c'est une dame.
C'est un auditeur. Là,
oui. Notre auditeur, je peux m'excuser. Donc, le vide est stupéfiant. Avec Torricelli, avec donc Pierre Fermat, Pascal est l'un de ceux qui a le plus modifié notre vision du monde. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à Pascal, pour faire bref, nous vivions sur l'antique physique. La nature, comme je le disais, abhorre, déteste le vide. Donc on voyait le monde comme un monde rassurant, plein, et l'on découvre que effectivement le monde est fait de vide. Donc vous voyez, il détruit une idole. C'est lui qui détruit une idole, si j'ose dire, la vieille physique antique, en ce sens, effectivement, il a contribuer puissamment à modifier notre vision du monde, d'où cette formule qu'il prête aux libertins dans ses pensées, le silence infini de ces espaces m'effraie. Le silence, le silence effrayant de ces espaces infinis, voilà, le silence effrayant de ces espaces infinis m'effraie. C'est une parole qu'il met dans la bouche du libertin. Je rappellerai en un mot ce qu'on appelle le terme libertin à l'époque est très flou. Il désigne soit l'incroyant, soit le sceptique, soit l'athée, silencieux ou plus militant. Pascal s'adresse, lui, à... Et c'est là, vous voyez, monsieur, où il est tout à fait moderne, j'ai oublié d'en parler, enfin, c'est parce que c'était à propos des pensées. Pascal s'adressera à l'incroyant indifférent, à l'incroyant, à ce libertin indifférent, cultivé, en fait, un peu comme vous et moi, c'est-à-dire, voilà, et il s'adresse aux ceux qui sont indifférents, et il essaie, effectivement, par une voie tout à fait ingénieuse, que j'expliquerai le 3 septembre, j'ai abordé un petit peu ce point-là tout à l'heure, il essaie, effectivement, de les persuader, donc par une voix tout à fait ingénieuse.
Et puis nous avons le message d'une auditrice concernant les provinciales. Je n'en lis qu'une partie parce que nous allons conserver l'autre partie de ce message pour la émission.
Très bien.
De la rentrée.
Oui, bien sûr.
3-7 ans, je lis simplement le début de son message. J'ai lu enfin, nous dit-elle, les provinciales pour célébrer les 400 ans de sa naissance. Plutôt aride comme lecture, mais on apprend certains éléments sur les mentalités du temps. C'est aride, c'est difficile à lire. Comment réagissent vos élèves, vos jeunes élèves, des provinciales?
Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas étudier les provinciales en classe de première, mais je sais qu'une de mes collègues étudie les provinciales en classe préparatoire. La présidente de la MOPA me disait, les membres de l'ordre des Palmes Académiques me disaient que sa lecture des provinciales en classe préparatoire était une révélation. Oui, c'est difficile.
Pour les élèves?
Pour elle. Oui, elle est, quand elle était élève.
Elle
se souvenait de la lecture des provinciales. Alors, ça me permet peut-être de prendre 2 minutes pour expliquer cette question sur de la grâce. Effectivement, la question, les provinciales portent sur 2 points, la question de la grâce et la casuistique. Alors, la casuistique, c'est l'étude des cas de conscience, mais ça, Pascal ne conteste pas. Simplement, les jésuites en venaient, ou certains jésuites en venaient à tout justifier, y compris le crime, y compris les duels, etc. Et Pascal, en défenseur de la vérité, évangélique, évidemment, s'insurge. Alors, il y a... j'en profite pour vous dire que Pascal, on dit souvent Pascal déteste les jésuites. Non, c'est un grand admirateur de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle. Il a quelques amis jésuites. Donc, vous voyez, il faut aussi nuancer. Pour ce qui est de la question de la grâce, je vais très, très, très vite et j'espère être simple, et puis on y reviendra le 3 septembre. En bonne orthodoxie catholique, il faut tenir donc debout, à savoir... D'un côté, Dieu est tout puissant, tout connaissant, infini, éternel. De l'autre, L'homme est libre, même si cette liberté est abîmée par le péché originel. Hein. Alors, à partir de cela, il y a deux réponses possibles. Hein, je schématise énormément. Les jésuites ne mettent et les augustiniens, bon, ce qu'on appelle les jansénistes, si vous voulez, ne mettent pas l'accent sur le même plateau de la balance. Hein. Les augustiniens, donc, mettent l'accent sur donc, la toute-puissance de Dieu, sans pour autant, donc, évidemment, nier la liberté de l'homme. Hein. Donc, et ils sont partisans, j'expliquerai peut-être cela le 3 septembre, de la grâce donc, efficace. Hein. Les jésuites, eux, parce que de plus optimistes, faut se souvenir, hein, parce que moi, je sais pas parce que je suis pascalien que j'attaque les jésuites, hein, mais donc les jésuites, faut se souvenir, hein, c'est une compagnie qui a été donc une congrégation qui a été créée au XVIe siècle. Hein, ce sont des missionnaires. Ils ont traversé l'Atlantique. Ils ont découvert des types d'humanité qui finalement leur apparaissaient pas si mauvaises que ça, alors qu'ils n'étaient pas évangélisés. Donc ils sont plus optimistes, hein, et donc mettent davantage l'accent. Vous voyez, c'est l'autre plateau de la balance. Sur la liberté de l'homme. Hein. Et, eh bien, voilà, se déclenche une controverse théologique qui, effectivement, est un peu dépassée. Cela étant, elle dit aussi que, elle pose la question de la liberté de l'homme, et nous sommes tous attachés à notre liberté. Donc, vous voyez, ça reste aussi un petit peu, quand même, d'actualité. Le style de Pascal, en revanche, est assez... Le sujet est aride, mais le style est assez facile, car la langue de Pascal, c'est notre langue, hein. Moi, j'ai toujours été marqué par un professeur donc, qui me disait que la langue française avait beaucoup plus évolué de Montaigne à Pascal, 50 ans, hein, donc, que de Pascal à nos jours. C'est du français moderne, hein, donc un français que l'on peut lire et qui est assez facile.
Allez. Pourquoi ? Et puis nous allons, il nous reste 5 minutes, hein, passer en votre compagnie, Jean-Baptiste Veuf. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres modernes à la maison d'éducation de la Légion d'honneur et que ce soir vous venez, nous, à l'occasion du 400 ans de la naissance de Pascal, vous venez évoquer ce génie à la fois scientifique, mais ce génie aussi théologique, théologien, que fut Pascal. Dans ces dernières minutes, je pense que je vous propose d'évoquer la mort du père de Pascal et ses conséquences. Auparavant, nous avons une petite question d'une auditrice. Oui, je souhaitais aussi, mais je reviendrai en fait sur ce à quoi je pense. Cette amie auditrice nous dit, est-il vrai que la Légion d'honneur possède encore une chapelle en fonction, situation pour le moins étrange de nos jours, où l'on traque dans le domaine public tout ce qui demeure de la religion chrétienne?
Ah bah, c'est-à-dire que... Oui, alors là, on change de sujet. Vous voulez que j'y réponde? Je réponds. Oui, bah, c'est-à-dire que la maison d'éducation de Saint-Denis est installée en partie, enfin, dans l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis. Dans l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis, il y a une salle du chapitre qui est aujourd'hui la salle d'art plastique, la salle de dessin, et il y a une chapelle. Hein, donc, effectivement, cette chapelle... il y a un aumônier, mais dans le cadre d'une aumônerie publique, nous ne sommes pas très loin des lycées Claude Bernard et La Fontaine, hein, donc qui sont des établissements publics. Et leur aumônerie est rue de Varize, tout près d'ici. Hein, donc l'établissement est public, laïque, hein, nous y sommes attachés. Mais effectivement, il y a un aumônier pour les élèves catholiques.
Alors je vous laisse le choix des 4 minutes qui nous restent.
On va s'arrêter en fait.
Faut-il évoquer la mort d'Étienne Pascal, le père de Blaise Pascal, et les conséquences pour la suite de sa vie? Alors, voulez-vous évoquer un autre sujet?
C'est-à-dire que je voulais m'arrêter, puisque ça aurait été cohérent par rapport au 3 septembre, à l'année 1653, simplement pour dire que, puisqu'on en était, vous savez, donc Blaise et Jacqueline qui deviennent des familiers de Port-Royal, hein, donc, et le 19 septembre 1648, hein, voilà, c'est la grande expérience du Puy-de-Dôme. Hein, Pascal qui n'a pas seulement une bonne intuition, hein, donc l'existence du vide, mais qui cherche la preuve la plus rigoureuse. Hein, 1652, eh bien, la jeune Jacqueline entre à Port-Royal de Paris. Hein, et là, c'est un peu la déprime, hein, pour Pascal. Donc, c'est le début un petit peu de ce qu'on a appelé la période mondaine. Alors, c'est pareil, faut pas. Donc, en 1653, ça sera donc le début de la grande querelle, de la grande controverse dite janséniste, puisque le pape Innocent X, eh bien, fulmine la bulle cum occasione qui condamne 5 propositions tirées de l'Augustinus de Corneille Janssen. Et là, on entre dans
Jean-Baptiste Veuf, je vous laisse cette question pour l'aborder, oui, la prochaine fois, parce que la réponse sera sans doute un peu longue. Il ne nous reste que 2 minutes. Vous nous avez expliqué ce qui caractérisait l'augustinisme, oui. Vous n'aimez pas tellement qu'on utilise le terme de jansénisme, ce fait de placer le curseur plus sur la grâce que sur la liberté de l'homme qui caractérise la position jésuite, on s'étonne. Alors bien sûr, nous sommes au XXIe siècle, on s'étonne qu'au XVIIe siècle, l'affrontement entre jésuites et augustiniens ou jansénisme ait été aussi violent pour quelque chose qui ne paraît pas finalement... très essentiel, comme la suite l'a montré. Mais peut-être pour nous revenir là-dessus à notre émission de reprise du 3 septembre, vous avez évoqué le fait que Blaise Pascal n'est pas heureux de voir Jacqueline entrer à Port-Royal, et pourtant il y a eu cette première conversion familiale au jansénisme, enfin, l'augustinisme. Pourquoi cette opposition? Pourquoi ce mécontentement de Blaise Pascal de l'entrée de sa sœur Jacqueline à Port-Royal? Puis il faudra comme revenir sur la mort d'Étienne.
Oui, ben, justement, le père, hein. Mais en quelques mots. Hein,
une donc, minute, c'est peu.
dans un premier temps, il soutient la vocation religieuse, mais le problème, c'est que la mort de son père change la donne. Hein, et le départ de Jacqueline, du coup, n'est pas bien vécu par Pascal. Donc,
parce qu'il est seul. Du coup.
Voilà.
Hein. Parce qu'il
devient
seul.
Et il est seul. Très proche de sa petite sœur.
Il est proche de Jacqueline.
Hein, très proche de sa petite sœur. Et puis, pour revenir, oui, cette querelle. Non, je dirais simplement que, si vous voulez, ces hommes-là. Enfin, c'était la question de la liberté de l'homme hein, qui était posée. Et donc, cette question est essentielle.
Eh bien, nous y reviendrons, si vous voulez bien. En tout cas, Jean-Baptiste Neuf, merci. Merci beaucoup ce soir pour votre passion que vous avez su faire partager pour Blaise Pascal. Et on se retrouve
à bientôt.
Pour voilà. Une émission de rentrée le 3 septembre.
Après un peu de retour.
Toujours voilà, autour de Pascal. Merci beaucoup d'être venu ce soir en direct, Jean-Baptiste Neuf. Très bonne soirée à vous.